Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Make that out.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Les prises d'otages peuvent être économiquement avantageuses. Hier, alors qu'une prise d'otage de 16 heures avait lieu dans un café de Sydney, une prise d'otage s'achevant d'ailleurs par la mort de 3 personnes, dont le preneur d'otage, Uber a fait exploser ses prix, comme on l'apprend sur le blog Big Brother. Uber, c'est cette application dont je vous ai parlé hier, qui permet d'appeler un chauffeur comme vous et moi pour se faire ramener chez soi à moindre coût. Il fallait donc compter au moins 66 euros pour prendre une voiture dans la zone de la prise d'otages. D'après l'agence Reuters, cette augmentation est le fait d'un système de tarification automatique déclenché lorsque la demande d'une zone donnée est en hausse. Autre phénomène inattendu que peut déclencher une prise d'otage, la prise compulsive de selfies devant les lieux du drame. Oui, quelques badauds ont pris la pose devant le café concerné pour les poster sur les réseaux. On n'arrête pas le progrès. Reste à savoir quel hashtag ils y ont accolé. Hashtag prise d'otage, hashtag Daesh, hashtag bientôt du sang ou hashtag tout est bon pour buzzer.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons, tenez-vous bien, ça va faire tout drôle, nous recevrons le Père Noël. On lui demandera comment il se sent à 8 jours de sa tournée mondiale, quelle préparation physique ça comprend, combien de temps il faut pour avoir une barbe comme ça. Bref, tout ce que vous avez envie de savoir sur le Père Noël, ce sera juste après la chronique Vigie de Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et les propos politiques. Et le Père Noël, ce sera juste avant la chronique sexo d'Aminata qui veut justement lui donner sa liste. Mais d'abord, un tout autre sujet. Aujourd'hui et demain a lieu à l'Université d'Angers la 3e Biennale masculin-féminin, un colloque international qui réunit une trentaine de chercheurs dédiés aux relations entre espace et sexualité. Comment faire avec la distance? Quelle place tient le harcèlement dans l'espace public? Comment homosexualiser l'espace public? Autant de questions débattues pendant 2 jours. Et ce soir, nous allons essayer de répondre à un échantillon avec 2 acteurs de cette biennale.
À Munich, il y a 6 zones de la ville qui,
naturiste, hein,
et voilà, qui étaient naturistes. Vous pouvez vous promener donc tout nu. Et maintenant, les Pays-Bas font donc encore plus fort, puisque vous pouvez faire l'amour dans un parc public. Le jardin public Vondelpark, voilà. Vous pouvez avoir des ébats enflammés, vous pouvez faire l'amour batifolé en toute liberté sans que les services de l'ordre n'interviennent. Sauf que quand même, depuis 2008, la municipalité a jugé bon d'ajouter un panneau indiquant qu'il était recommandé de laisser le parc dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé en entrant.
Extrait du fil d'Ariane, chronique de l'émission La Haie, l'amour et vous sur RMC. Voilà donc qu'on peut faire l'amour dans les parcs publics. A priori, on peut penser que l'amour, la sexualité, ça tient du domaine de l'intime, du chez-soi, de l'intérieur. Mais non, évidemment, ça se fait aussi à l'extérieur. Bonsoir Stéphane Leroy.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de géographie à l'Université d'Angers et organisateur scientifique de la Biennale qui se tient donc aujourd'hui et demain à l'Université d'Angers. Et bonsoir Lynn Chamberlain.
Bonsoir.
Vous êtes professeur sociologue à l'Université du Québec à Montréal. Alors, est-ce que l'appropriation de l'espace public par la sexualité, c'est une des raisons pour lesquelles les géographes et puis les sociologues s'emparent de ce sujet-là, de ce lien-là, de lien entre l'espace et la sexualité?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais préciser que le titre de cette biennale, ou le sous-titre, c'est « Sexualité des lieux et des liens ». Et peut-être faire un petit historique. En fait, c'est donc la 3e biennale, tous les 2 ans, la première biennale avait lieu à Bordeaux en 2010, la 2e à Grenoble en 2012. Elles étaient vraiment centrées sur le genre. Et personnellement, il m'a semblé qu'on pouvait peut-être porter une focale sur les sexualités qui étaient un peu laissées de côté, le genre englobant vraiment beaucoup d'autres choses, même si ça reste très, très important. Et si on en a quand même aussi parlé aujourd'hui, notamment en parlant de harcèlement dont sont victimes les femmes dans l'espace public ou dans l'espace professionnel ou dans l'espace domestique. Et sinon, bon, mais évidemment, en tant que géographe, je pense vraiment que space matters, comme on le disait les Américains, l'espace compte pour expliquer à la fois nos comportements sexuels, mais également, peut-être encore plus, pour... nous aider à fabriquer et à valider nos identités sexuelles en particulier, mais on y reviendra après, les identités sexuelles minoritaires.
Lynn Chamberlain, est-ce que cette différence entre sexualité et genre que vous venez d'expliquer, Stéphane Leroy, vous pouvez l'expliciter peut-être ? C'est quoi la différence entre les genres et les sexualités ?
Écoutez, on peut parler de genre, d'une part pour parler des constructions binaires de masculinité et féminité, et de la classification donc en hommes et femmes. On peut aussi, et c'est ce qui se fait actuellement, de contester cette catégorisation binaire à laquelle s'ajoutent d'autres identités de genre. Quand on parle de sexualité, on parle davantage de désir, on parle davantage d'affect, de comportement sexuel. Et les articulations possibles entre genre et sexualité sont très nombreuses. Et donc, pour moi, le fait de parler de sexualité, quelque chose qui doit prendre en compte les différences de genre et les inégalités de genre, mais le genre est loin d'épuiser la question des sexualités.
Les relations entre genre et spatialisation, entre sexualité et lieu, c'est un sujet d'étude qui est relativement récent.
Alors, il y a de grosses différences, d'une part, selon les pays. Comme souvent, le monde anglo-saxon a été pionnier, précurseur, notamment par rapport à la France. Et d'autre part, il y a des différences en fonction des disciplines. Les sociologues, comme Lynn, ou les historiens, essentiellement, ou ceux qui travaillent dans la littérature, sont en avance sur des disciplines, ou en anthropologie, sont en avance sur des disciplines comme la mienne, la géographie, qui est toujours un peu à la traîne pour ces questions. Je le rappelais ce matin à partir de mon cas personnel, puisque ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille là-dessus. Encore aujourd'hui, même si ça s'est un petit peu calmé, si j'ose dire, je dois presque systématiquement expliquer, me justifier quand je dis que je travaille sur la géographie des sexualités. On me dit, mais ah bon, mais en géographie, on peut travailler sur ça, mais pourquoi quel rapport entre l'espace et les sexualités? Si, le rapport, il est vraiment énorme, et il est à double sens. Comme je disais à l'instant, l'espace joue sur nos comportements donc genrés, mais nos comportements aussi sexualisés, si j'ose dire, mais aussi, et c'est peut-être ça moi qui m'intéresse le plus en tant que géographe, notre genre et notre identité sexuelle est à même de modifier les agencements spatiaux, jusqu'à peut-être, dans le cas notamment des homosexualités sur lesquelles je travaille, peut même, comment dire ça, créer du lieu éphémère, voire pérenne, pour employer un gros mot de géographe, peut même amener à une territorialisation de l'espace.
Ça, on en parlera tout à l'heure, d'accord, justement, de ces minorités et puis de cette création de l'espace ou alors de cette appropriation de l'espace. En sociologie, Lynn Chamberlain, est-ce que c'est un sujet d'étude récent pour vous, en tout cas?
En fait, moi, je me suis intéressée aussi aux minorités sexuelles et donc mon premier intérêt était les lieux de rencontre des femmes lesbiennes et des hommes gays dans les périodes, en fait, au 20e siècle, mais avant les mouvements de libération homosexuelle. Et à ce moment-là, on s'apercevait que les espaces qui publics, qui les gays et les lesbiennes devaient faire face à une série d'obstacles pour trouver des lieux de rencontre. Il y avait des espaces privés dans lesquels ils pouvaient se rencontrer, mais lorsqu'il s'agissait d'espaces publics, ils devaient véritablement s'approprier les espaces publics et s'exposer ainsi à plusieurs dangers, notamment la répression policière, mais aussi pour les lesbiennes, possiblement le harcèlement des hommes et voir les agressions des hommes. Et donc, moi, c'est ce qui m'a amenée à m'intéresser à la dimension spatiale. Et bon, au départ, beaucoup de sociologues considéraient que des espaces comme les bars, c'était pas tellement intéressant, ça avait pas de saveur sociologique. Mais en même temps, c'était des espaces extrêmement importants pour bâtir les réseaux, pour bâtir les identités même, qui ne pouvaient naître que dans ces espaces collectifs partagés.
Stéphane Leroy, vous avez publié avec Nadine Caton un atlas mondial des sexualités en 2013, aux éditions Autrement, dans lequel on apprend, hormis toutes les différences qui pourraient être liées en fait aux législations, par exemple sur le thème de la prostitution, de l'IVG, ou même de l'homosexualité, sur le mariage pour tous, par exemple, il existe tout simplement des différences assez basiquement de fréquence de relations sexuelles. Par exemple, rien qu'en Europe, il y a des différences. Si on prend les Grecs, ils font en moyenne l'amour 11,5 fois par mois contre 7,7 fois pour les Suédois. D'un œil de géographe, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence-là qui est toute bête et qui, en fait, géographiquement, c'est pas si éloigné que ça?
J'espérais vraiment échapper à cette question.
Ah mince.
Puisque pour tout vous dire, on a eu beaucoup d'émissions de radio avec Nadine après la sortie de cet atlas et tout le monde nous a posé cette question et on n'a pas vraiment la
réponse. Très original.
Excusez-moi. Et on n'a pas vraiment la réponse. Effectivement, il y a des écarts. Ce qu'on aurait aimé cartographier, mais qu'on n'a pas pu cartographier faute de données, c'est aussi des écarts en fonction surtout de l'âge, en fonction des classes sociales, en fonction de l'espace de vie, à une échelle, position, ville, campagne, etc. Ces explications, sur ce cas précis, je ne saurais pas vous répondre. D'une manière plus générale, pour rester en Europe, il y a des pays plus permissifs, plus ouverts, plus libérés. Ça se retrouve dans la loi, et d'autres bon, qui le sont moins. Ce qui est intéressant, c'est que l'opposition classique que l'on fait entre pays du Nord et pays du Sud, elle est quand même relativement bousculée avec le cas d'un pays comme l'Espagne, voire le Portugal, qui tous les deux ont légalisé le mariage gay, et l'Espagne est devenue un pays également très très accueillant pour les touristes gays, enfin, qui vont par contre, délaisser l'Italie, beaucoup moins accueillante. Et ce matin, on avait un intervenant qui parlait de Venise comme ville des amoureux, et il a bien dit que que les agences de voyage proposent des voyages de noces pour les couples hétérosexuels à Venise, mais on ne va jamais retrouver ça pour les homosexuels. Donc voilà, il y a des différences qui tiennent à la loi, qui tiennent à l'histoire. Pour ce qui est des gays, Lynn parlait des bars, mais c'est très très important. Hein, ce sont des lieux de sociabilité qui sont très très importants. Ça n'a rien, un bar gay, ça n'a rien à voir avec un bar entre guillemets hétéro. Parce que quand on rentre dans un bar gay, déjà, on accepte d'être identifié comme gay, même si on ne l'est pas. Ou dans un bar lesbien, on accepte d'être identifié comme lesbienne, même si on ne l'est pas. Mais voilà. Alors que quand on rentre dans un bar hétéro, enfin un bar qui n'est pas gay, on va dire, c'est pas du tout comme ça. Et donc c'est vraiment se visibiliser, et en même temps, ce sont des espaces un petit peu de résistance à l'hétéronormativité, et des espaces de rencontre, et donc ça paraît très, très important. Et l'Espagne, par exemple, est un pays qui l'a vraiment bien compris et qui a depuis une vingtaine d'années développé une structure commerciale, quasiment unique en Europe.
Donc on a bien compris qu'en fait, on ne peut pas faire cette différence entre pays du Nord et pays du Sud. Ce n'est pas si simple que ça.
Non, ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, excusez-moi, juste un dernier mot. En fait, dans cet atlas, notre fil conducteur, ou plutôt notre hypothèse de départ, mais on avait déjà plus ou moins la réponse, on a essayé quand même de la démontrer, c'est que la mondialisation, la globalisation dont on nous parle constamment, n'avait pas provoqué l'homogénéisation des pratiques sexuelles, des comportements sexuels, et que les grandes perdantes dans cette histoire, encore aujourd'hui, et dans tous les pays, c'était les femmes.
On va continuer cette discussion sur les espaces et puis la sexualité, juste après MC Solar, Obsolète, puisque vous savez que cette semaine sur Radio Campus, c'est tout à fait 94.
Concierges étaient en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passée. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé y'a plus de speak-in. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylé la phrase qui suivra. L'homme
qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solar, l'arbalète qui pique cette dique solité à l'élite qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque, puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre et que sa campagne de l'oreillette comme à mes oreilles la variette, sa coquine rime avec pop soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation, douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses, lisse de la mise, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette, l'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Mais sache que dans les cinémathèques, t'es presque calipette, des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète.
Et ce soir, on évoque la troisième biennale masculin-féminin qui se tient à l'Université d'Angers aujourd'hui et demain, intitulée Sexualité des liens et des lieux, en compagnie de. Des lieux et des liens, en compagnie de Stéphane Leroy, professeur de géographie à l'Université d'Angers et organisateur scientifique du colloque, et de Lynn Chamberlain, professeur sociologue à l'Université du Québec à Montréal. Alors, vos champs d'études, tous deux, portent sur les minorités sexuelles particulièrement. Et tout à l'heure, Stéphane Leroy, vous avez utilisé un gros mot, vous avez parlé d'hétéronormativité. Et alors là, je ne peux pas m'empêcher de vous demander ce que ça veut dire.
C'est finalement assez simple. Bon, normativité, tout le monde comprend. Hein, donc c'est la puissance et l'intériorisation des normes. Et en fait, l'hétéronormativité, eh bien, c'est considéré comme acquis, comme normal et non pas normé. L'hétérosexualité. C'est à différencier de l'homophobie déjà, pour prendre l'exemple dans l'espace public, c'est considérer que ça va de soi que un homme et une femme se tiennent par la main, mais par contre que deux hommes ou deux femmes se tiennent par la main, ça ne va pas de soi.
Oui, on peut donner un exemple. Au Québec, il y a eu des études où on demande aux jeunes de réagir, de dire s'ils se sentent à l'aise ou pas, d'avoir de faire un travail scolaire avec une personne qui est gay ou qui est lesbienne, de faire une activité sportive. Et une des choses qui suscite le plus de réactions négatives, c'est le fait de voir deux hommes s'embrasser en public. Alors, les manifestations publiques d'homosexualité sont toujours considérées comme non souhaitables, voire comme dégoûtantes, alors que l'hétérosexualité s'exprime publiquement sans que ça suscite de réactions. Je crois que c'est un exemple de construction de l'hétéronormativité. Et on dira que l'homosexualité peut être tolérée à la limite, mais à condition qu'elle demeure dans la sphère de l'intimité. Quand ce sont les personnes homosexuelles qui s'embrassent, on dira qu'elles étalent leur vie privée, elles étalent leur sexualité, pourquoi en font-elles autant, etc. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures.
J'aimerais qu'on comprenne quelle place, enfin, quelle importance a l'espace, le lieu pour les minorités sexuelles. En fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux façons de voir les choses. Il y a d'abord l'espace comme revendication, cette minorité sexuelle. Lynn Chamberlain, vous tenez d'abord, en effet, un atelier sur la mémoire spatiale dans les récits de témoins acteurs du mouvement LGBT. Ça veut dire que l'espace joue un rôle dans la revendication des minorités?
Oui, parce que l'espace est, bon, d'une part parce qu'il y a le fait de se rendre visible publiquement, de marcher, de revendiquer la fierté, ce sont quand même des manifestations publiques, depuis Stonewall jusqu'aux marches de fierté maintenant. Alors, ce sont des façons d'affirmer sa présence dans la ville et de revendiquer. Et à l'origine de ces marches-là, il y avait la répression policière, pardon, que ce soit à Stonewall ou que ce soit, par exemple, à Montréal, lors d'événements de descente policière où il y a eu des arrestations massives et ça a déclenché une réaction de masse. Donc, l'espace public est un lieu de revendication contre la répression policière. Et ensuite, c'était aussi pour montrer la force du mouvement et revendiquer certaines législations favorables. Mais ça reste, même encore maintenant, chez nous, Québec, l'égalité juridique quand même depuis un certain temps, mais les marches demeurent un moment important parce que c'est une façon de s'approprier l'espace public, d'affirmer l'existence, alors que dans le quotidien, cette existence-là ne peut pas se manifester autant dans l'espace public parce que justement, cet espace est hétéronormé et que dès qu'on sort de certains quartiers, ou par exemple le village gay ou certains quartiers, il y a un risque de répression. Il y a régulièrement des incidents qui se produisent où des clients sont expulsés d'un restaurant parce qu'ils se sont embrassés ou qu'ils se sont tenus par la main, des trucs comme ça.
Oui. Village gay, vous avez évoqué les villages gays. C'est...
Oui, à Montréal, il y a un espace de la ville où il y a un ensemble de commerces, de bars, de lieux de spectacle, de restaurants qui soit s'adressent à une clientèle exclusivement gay ou qui sont gay-friendly, donc selon l'expression que l'on utilise au Québec, c'est-à-dire qui accueille les gays. Donc, et ces commerces se retrouvent dans un espace, dans une partie de la ville qu'on appelle le village gay.
Donc là, on a clairement une revendication par l'espace.
Oui, et comme le disait Stéphane, c'est-à-dire création d'un territoire qui est associé à l'homosexualité davantage masculine dans ce cas, et qui est une façon aussi d'exister dans la ville, de rendre cette existence visible, parce que dans le village gay, c'est bon, c'est pas un ghetto, les gens viennent aussi dans le village, côtoient les personnes homosexuelles, les gays, les lesbiennes qui sont aussi dans le village. Donc, c'est un espace de mixité urbaine, mais où il y a quand même une visibilité des minorités sexuelles. J'ai parlé jusqu'à maintenant des gays, lesbiennes, mais disons que c'est plus large que ça. C'est les personnes transsexuelles, les travestis, les queers. Donc, bien que les queers actuellement... s'approprie plutôt d'autres lieux que le village gay traditionnel. Mais enfin, bref, c'est un rapport à la ville que les minorités sexuelles construisent à la fois par des actions de lutte, par des actions d'affirmation. Oui.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Les quartiers gays, on prend comme le Marais à Paris, donc on appelle le village à Montréal, sont vraiment des espaces importants. D'ailleurs, même pour les gays et les lesbiennes qui n'y vont pas, mais ils savent que ça existe. C'est des espaces de sécurité, c'est des espaces de résidence, de résistance, pardon, des espaces de rencontre. Et ailleurs, c'est plus difficile. Pour reprendre le terme d'Erving Goffman, les gays et les lesbiennes doivent souvent utiliser ce qu'il appelait des désidentificateurs, c'est-à-dire se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et cela en fonction des lieux où ils sont et en fonction des gens avec qui ils sont. Avec ma collègue Nadine Catan, on avait écrit un article à partir d'une enquête, d'ailleurs il a été publié dans les cahiers de géographie du Québec, sur la pratique des gays et des lesbiennes quand ils sont en couple, la pratique de l'espace à Paris. Et donc on leur avait demandé de coder une carte carroyer en fonction de... Donc ils pouvaient mettre 1, 2 ou 3. 1, ça veut dire qu'ils n'autorisaient aucun geste d'affection avec leur compagnon. 2, c'était ils pouvaient se tenir par la main, mais furtivement. Et 3, ils se tenaient par la main, vraiment, et ils pouvaient s'embrasser, etc. Donc on leur a demandé de coder. Et le résultat que l'on a obtenu, c'est que dans le cas de Paris... il y a un modèle centre-périphérie, pour parler comme un géographe très très fort, dès qu'on s'éloigne vraiment du Marais, ça diminue très 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 fortement, et encore plus pour les couples de lesbiennes, qui sont victimes, je le rappelle, dans l'espace public, de la double peine en tant que femme et en tant que lesbienne.
Stéphane Leroy, vous évoquez une hypothèse que la territorialisation originale est un vecteur de la consolidation de l'identité sociale, ça veut dire quoi ?
Eh bien, en territorialisant, donc soit des espaces qui deviennent, comme les quartiers gays, relativement pérennes, même s'ils peuvent évoluer dans le temps, comme on le voit aujourd'hui à Londres, par exemple, un peu moins à Paris. Donc ces espaces, donc, ce sont des espaces de sociabilité, etc. Mais il y a aussi, peut-être qu'on peut en parler ici, des lieux éphémères,
voilà,
des lieux
qui sont détournés
de leur usage principal. À des fins de drague et de relations sexuelles, d'interactions sexuelles anonymes. Ce qui est très intéressant, c'est que même si leur fréquentation tend à diminuer pour différentes raisons, d'ailleurs je peux parler des raisons, donc c'est les contrôles policiers, mais peut-être encore plus aujourd'hui l'Internet. Et ils continuent quand même à exister. Certains sont vraiment des hauts lieux. Hein, à Paris, certains lieux comme lieu de drague existent depuis le XVIIIe siècle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que n'importe quel espace peut devenir un lieu de drague. Mais ces lieux, pour fréquenter ces lieux, il faut vraiment avoir un certain nombre de codes. Il faut avoir un savoir-faire, un savoir-voir, ce que le géographe Jacques Lévy appelle un capital spatial. Moi j'ai enquêté en fait plus précisément sur le bois de Vincennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs motivations qui ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi mes enquêtés, plus de 50% se définissaient comme hétérosexuels. Mais qui n'osaient pas évidemment aller dans les établissements commerciaux, etc. Et après, il y a vraiment plusieurs raisons pour la fréquentation de ces lieux. Déjà parce que c'est pas payant. C'est anonyme. Sur ces lieux, on parle très très peu. C'est des regards, c'est des gestes, mais on verbalise très peu. On veut rester anonyme. On dit très peu de choses sur soi. Et il y a aussi cette idée qu'on retrouve également dans les arrière-plages. Cette idée que donc du caractère édénique dans un bois, surtout si c'est l'été, il y a le soleil, le vent, les oiseaux, la nature, le bruissement des feuilles. Voilà, c'est un peu le mythe de l'Éden qui revient. Et voilà, mes enquêtés vraiment insistaient beaucoup là-dessus, ce qui permet de mettre à distance un peu les interdits, quoi.
On va devoir malheureusement conclure cet entretien. Juste un mot peut-être pour parler de la Biennale et de sa suite, de ses suites. Est-ce que la Biennale, elle va être suivie de publications ou alors c'est juste...
En principe, oui, si on travaille bien dès l'an prochain. Et puis, il y aura une quatrième Biennale. Et puis, une cinquième, peut-être, et puis une sixième. C'est appelé à perdurer, enfin, je l'espère.
Merci beaucoup, Lynn Chamberlain et Stéphane Leroy, d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci à vous.
Merci. Funk mode. Word 'em up. So what up, yeah, it's time to get down. You ready to chill? So turn up the sounds, whether it's in your Walkman or your stereo, I hope you hear me though. Bobbing that head, jamming to the radio, 'cause they're playing your song. The weekend's here, party's on, payday, hey. Big up to the DJs for spinning the jams. Mixed shows on Friday, kicking. And Saturdays it's hip hop, brothers shopping on the 1 and 2. Non-stop, the violence and gun shooting. It's time to unite, no time for losing or taking steps backwards. That's not the way, leave the stress at the office, it'll be there Monday. But for now it's your time, time to regroup, get a peace of mind. And disconnect from the madness, call time out. Take it from the PMB on the rap route. The golden voice, word is live and direct. Oop, there it is, time to swing your own thing. Word of up. Swing your own thing. Step aside, it's the squad crew. In tight, you know the evil that men do. Back for more, in 9-4 formats hardcore. Stepping through like Gigantor. Who is he? PMD, set for funk mode. It's time to party. Ooh yeah, back in there, throw your hands up in the air. Wave them side to side like you just don't care. So fellas, yo ho, and ladies scream out. Don't dwell in the past, live for now.
Back on the prowl, thick eyebrows, styles wild. Grab the head and just swing your own thing. Swing your own thing. Swing your own thing. Swing your own thing. Let me hear you say real good. Whether you're washing your car, cruising through the neighborhood, or playing basketball, dunking on brothers, cooling with your sis, respecting your mother, that's the way it should be. Family, not mass hysteria, stress, or poverty. 400 years, we almost there. Just look at the TV, we everywhere. Sports, lawyers, doctors, music. Everyone has a brain, it's time to use it. So grab that head, prepare for the future, cause that's the only way out. Sway it, gotta swing your own thing.
Swing Your Own Thing de PMD.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Nous sommes mardi, il est 19h30, c'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et passe à la moulinette les propos de nos hommes politiques. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
François Hollande inaugurait hier lundi le Musée national de l'histoire de l'immigration, une grande première pour celui qui avait promis l'ouverture du droit de vote aux étrangers lors des élections locales en 2012.
Une promesse sur laquelle le président français est d'ailleurs revenu pendant son allocution. François Hollande a répété son attachement au droit de vote des étrangers tout en prévenant qu'il fallait un consensus avant toute décision. Le président Hollande a rendu un hommage aux immigrés d'hier et d'aujourd'hui qui ont fait la France, quitte à dire que la France est un pays qui accueille peu d'immigrés par rapport aux autres pays européens.
Pour la France, où la question de l'immigration revient régulièrement, un devoir de vérité s'impose. Depuis 10 ans, notre pays accueille environ 200 000 personnes par an, soit la proportion la plus faible d'Europe, rapportée bien sûr à notre propre population.
François Hollande a-t-il raison ?
Eh bien, Tiffaine, François Hollande n'a pas totalement raison. Prenons l'année 2012, par exemple. Selon l'agence européenne Eurostat, la France aurait reçu 327 000 immigrants, loin des 200 000 annoncés par François Hollande. Mais le fond de son propos est quant à lui exact. Comparons par rapport à d'autres pays européens connus pour être terres d'immigration. En France, donc, il y aurait eu 327 000 immigrants sur une population totale de 65,8 millions d'habitants. 5 habitants sur 1000 seraient immigrés. En Italie, pays confronté lui aussi à une immigration qualifiée de masse, on trouve une tendance à peu près similaire, puisqu'un peu moins de 6 habitants sur 1000 est immigré. L'écart se creuse encore avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec plus de 7 pour 1000 en Allemagne et près de 8 chez nos voisins anglais. Plus étonnant encore, le pays européen connaissant la plus grosse immigration par rapport à sa population est la Suisse, qui accueillerait près de 150 000 immigrés par an pour une population totale d'environ 8 millions, soit proportionnellement 3 fois plus que la France, c'est-à-dire 19 immigrés pour 1000 habitants.
La Suisse présente peut-être quelques avantages cachés. Tu as vérifié une autre déclaration de François Hollande ?
Oui, le président a déclaré lors de son discours que l'immigration serait bénéfique pour l'État français.
Les étrangers sont toujours accusés des mêmes maux. Venir prendre l'emploi des Français, de bénéficier d'avantages sociaux indus, quand bien même les études les plus sérieuses montrent qu'ils contribuent davantage aux comptes sociaux qu'ils n'en bénéficient.
Une déclaration à contre-courant de ce que l'on peut entendre de la plupart des hommes politiques aujourd'hui. François Hollande se base ici sur une étude soutenue par la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, parue en 2010. L'étude révèle, en se basant sur des données de 2009, que l'immigration rapporte à l'État bien plus qu'elle ne lui en coûte. Démonstration, en 2009 donc, l'immigration française a coûté à l'État 16,3 milliards d'euros en retraite, 5 milliards en allocation chômage, 6,7 en allocation familiale. À cela, il faut rajouter le RMI, ancêtre du RSA, mais également les prestations de santé ou encore l'éducation. Le coût total, toujours selon l'étude de la DRES, s'élèverait à près de 48 milliards d'euros.
Mais tu annonces que l'immigration rapporte à la France.
Eh oui, car en 2009, les immigrés ont reversé à l'État, à travers les impôts sur le revenu, sur le patrimoine ou encore avec la TVA et les cotisations sociales, pour plus de 60 milliards d'euros. Le calcul est vite fait, l'immigration en France a un solde positif de près de 12,4 milliards d'euros. Alors, affirmation validée pour François Hollande, ne reste plus qu'à certains de se trouver une autre tête de Turc.
Merci Pierre-Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ho, ho, ho! Ce soir, à 8 jours de sa tournée mondiale, nous recevons le Père Noël. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous pouvez pas nous faire un petit ho, ho, ho?
Ho, 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 ho,
ho. Oh, super. C'est pas n'importe lequel de Père Noël, puisque vous êtes le Père Noël de la ville d'Angers. Je sais pas combien il existe de Père Noël dans le monde, mais vous avez de nombreux concurrents, c'est pas trop dur?
Non, c'est pas trop dur, non.
Alors en réalité, vous avez un prénom et un nom sous la barbe, vous vous appelez Bruno Delisle et ça fait 6 ans que vous êtes Père Noël à la ville d'Angers, c'est bien ça?
Oh, attention, tu lis les chiffres à l'envers.
9 ans.
C'est 9 ans.
9 ans, ouais, j'ai un petit problème. Comment ça s'est passé le recrutement?
Tout simplement un casting, parce que mon prédécesseur devait s'absenter en 2006 pour marier son fils. Et donc pendant plusieurs jours, je devais le remplacer. Et donc au printemps 2006, un casting a eu lieu et comme par hasard, je suis son sosie.
Il y a des critères particuliers. C'est votre vraie barbe. Je précise juste aux auditeurs qui ne voient pas le Père Noël qu'il est en costume, qu'il est venu avec son sac et son chapeau. Enfin bref, c'est le vrai Père Noël. Il y a des critères physiques pour être Père Noël?
Je pense que le mieux, c'est de porter effectivement la vraie barbe blanche avec les cheveux blancs. À part ça, je pense que le mieux, c'est d'avoir un visage souriant.
Que vous avez. Bruno Delisle, sous la barbe, vous êtes un comédien, intermittent du spectacle. Qu'est-ce que vous faites les 11 autres mois de l'année?
Alors, je suis comédien conteur. C'est-à-dire que je me déplace dans les écoles, dans les collèges, les centres de loisirs, mais aussi dans les comités des fêtes, pour les comités des fêtes, dans les maisons de retraite, sur les fêtes médiévales, parce que je compte des fabliaux du XIIIe siècle.
Et toute l'année, vous avez la barbe?
Obligé.
Obligé. En quoi ça consiste exactement votre travail, donc au mois de décembre? Vous causez aux enfants, vous allez un peu partout, c'est quoi le job?
Je vais à leur rencontre. Un peu partout sur le plateau piétonnier d'Angers, mais principalement sur le marché de Noël et dans mes ateliers qui sont dans les salons Kurnonski derrière la Grande Poste.
Et puis vous allez aussi à la patinoire et à la piscine, ça va, c'est pas trop dur comme boulot?
Alors pour la piscine, je vais déléguer.
Ah !
Je vais déléguer, oui, parce que je dois être aussi sur le marché au même moment. Donc je délègue. Un de mes lutins va y aller. Je lui ai demandé de se grimer en moi-même. Bon, je ne sais pas s'il va réussir à être crédible, mais je demande aux enfants d'être gentils avec lui parce que ça n'est quand même pas facile d'être moi.
Qu'est-ce qu'ils vous racontent, les enfants? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils peuvent se dire, en fait, quand ils sont sur vos genoux.
Eh bien, certains me disent qu'ils ont été sages, bien sûr. D'autres s'interrogent sur leur sagesse. Est-ce qu'ils ont été assez sages? Oh, moi, je les rassure. En général, ils sont assez sages durant toute l'année. Et moi-même, comme leurs parents, leur pardonne leurs quelques bêtises. Mais autrement, la question qui m'est le plus souvent posée, c'est où sont les reines?
Et alors?
Eh bien, les reines, ils se reposent avant le grand voyage. Et il se repose dans mes écuries secrètes. Mais alors, c'est un secret. Hein.
En fait, ils vont un petit peu à confesse quand ils viennent vous voir, c'est ça?
Absolument, oui.
Vous êtes une rockstar. Quand vous arrivez à Angers, il y a plein de monde partout, enfin des enfants surtout. Ça doit faire bizarre, non, d'être aussi acclamé
Oh, ça fait surtout plaisir. Ça fait surtout plaisir. Et s'il y a les enfants qui m'acclament, il y a aussi les parents, les grands-parents qui se pressent et tu verrais, dans la rue, il n'y a pas que les petits qui viennent se faire prendre en photo. Il y a les ados et les adultes.
Est-ce que vous avez une anecdote particulière à raconter depuis donc 9 ans que vous faites le Père Noël en décembre ?
Une anecdote Oh, oui. Et un enfant, une fois, sur les conseils de son père, a voulu vérifier la véracité de ma barbe. Et il a empoigné ma barbe et s'y est pendu. Moi, je me suis retrouvé à genoux.
Ok, c'est pas toujours cool alors d'être le Père Noël, c'est pas
voilà,
toujours reposant.
Voilà, ça peut être dangereux.
Et est-ce que certains vous demandent si le Père Noël existe ?
Oui, ah oui. Ils me demandent, mais est-ce que tu es le vrai Père Noël ? Je leur demande de m'observer de près. Et la réponse est toujours la même.
C'est clair qu'il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on peut faire un petit questionnaire pour évacuer toutes les interrogations qu'on s'est tous posées, voilà, sur le Père Noël ? Il va falloir être direct et franc. Combien de rennes pour tirer votre traîneau ?
7.
Ça, c'est du tac au tac, c'est fou. Et le, non, mais cette écurie secrète, elle est où ?
Elle est sous mes ateliers.
Qui sont ?
Derrière la grande poste.
Combien...
Non, on ne
répétera pas. Combien est-ce que vous exploitez de lutins dans vos ateliers ?
Alors là, c'est un nombre infini. Tu peux pas les compter, il y en a trop.
Vous ne faites pas l'appel ?
Non, non, non.
Est-ce que c'est bien vous qui buvez le lait et qui mangez les gâteaux qu'on laisse sur la cheminée ?
Le lait, le petit vin chaud, le whisky, enfin, toutes les boissons qu'on peut me laisser. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de la tournée, d'ailleurs, elle se rallonge quelque peu.
Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce que vous préférez boire ? Qu'est-ce qu'on vous laisse sur la cheminée alors ?
J'aime bien le lait.
Le lait. Comment va la mère Noël ?
Elle va bien, mais elle est très occupée en ce moment parce que ben, elle doit s'occuper des petits lutins. Il faut coordonner tout ça. Moi, je vais à la rencontre des enfants dans la rue. Je ne peux pas être tout le temps aux ateliers à m'occuper des lutins, voir comment ils emballent les cadeaux. Et il y en a de malins parmi eux. Et donc, c'est la mère Noël qui surveille tout ça.
Ou en fait, vous déléguez carrément votre travail de chef, quoi.
Moi, je vais au contact.
Qui est-ce qui a votre costume ?
Ah ben, là, pendant que je suis ici, à Angers, je m'adresse au pressing.
Comment est-ce que vous faites pour faire le tour du monde en une nuit, sans rire ?
Eh bien, là, c'est une grosse organisation. Il faut savoir déjà que je passe dans la nuit du 24 au 25, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Au-delà du cercle polaire... du nord. Il fait nuit tout le temps. Donc, dès la première heure du 24, il fait déjà nuit. Donc, je suis déjà dans la nuit du 24 au 25. Donc, je peux déjà commencer à 0h le 24, ma tournée. Et après, en allant du nord au sud, très rapidement, puis de l'est vers l'ouest, je poursuis la course du soleil, en quelque sorte, et c'est ainsi que j'arrive à voir toutes les maisons. Et il faut savoir aussi que dans certains pays, on ne veut pas de moi. Donc, je fais l'impasse.
Vous vous êtes déjà trompé à distribuer les cadeaux ?
C'est pas tellement moi qui me trompe, ce sont mes lutins farceurs qui font des échanges d'étiquettes.
Où est-ce qu'on peut vous voir bientôt alors, Père Noël ?
Bientôt, là ? Oh, eh bien, demain, par exemple, mercredi, de 3h à 4h30, si les parents veulent prendre des photos avec leur enfant, je serai sous le kiosque à musique du Jardin du Mail. Et à partir de 6h, je serai au pilori. Enfin, au pilori, sur la place du pilori.
Merci beaucoup d'avoir été dans le sous-marin. Et puis, bon courage pour cette tournée. J'imagine qu'il y a une petite préparation physique, non, quand même ?
Non, parce que je suis un homme d'extérieur, donc ça va, je crapahute pas mal le reste de l'année, ça va.
Vous embrasserez la mère Noël pour nous ?
Bien sûr, je n'y manquerai pas, surtout que c'est son anniversaire aujourd'hui.
Ah, ben vous lui souhaiterez bon anniversaire, merci beaucoup.
The snow's coming down, I'm watching it fall, lots of people around. Baby, please come home. The church bells in town, oh, ringing in tone. What a happy sound. Baby, please come home. They're singing deck the hall, but it's not like Christmas.
Christmas at all. 'Cause I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on the tree, I'm watching them shine. You should be here with me, baby, please come home. They're singing Dag Dawg, but it's not like Christmas at all. 'Cause I remember when
c'était Gaspard Royan avec Christmas, Baby Please Come Home.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, ce sont des lectures croisées à l'espace culturel. L'association Adua et la compagnie T-Rex proposent une création lecture-spectacle sur 1914 et la littérature d'Henri Barbusse et de Marcel Proust seront à l'honneur. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Vendredi dernier, dans l'Artichaut, ça causait opéra et musique classique, l'occasion pour Anissa, chroniqueuse des cultures urbaines, de parler d'hip-hop et d'opéra.
Salut Gwen. Gwen, je t'avoue quelque chose, je n'y connais absolument rien en opéra. Par contre, je connais deux ou trois trucs sur R. Kelly. Suis-je en train d'enseigner de manière assez peu subtile qu'il existe un lien entre l'opéra et R. Kelly ? Absolument. Gwen, es-tu familier avec R. Kelly ?
Pas du tout.
Si tu étais familier avec R. Kelly, il t'évoquera probablement le film Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny, une affaire judiciaire un peu glauque sur les détournements de mineurs, une chanson un peu glauque en hommage aux militaires américains partis combattre en Irak, un duo un peu glauque avec Céline Dion nommé Amuranger. Mais R. Kelly, c'est également un des précurseurs du hip-hop opéra, le terme qu'il a employé pour décrire Trapped in the Closet, un projet musical ambitieux. Divisé en 33 chapitres, l'opéra ressemble à une espèce de telenovela mexicaine sur fond de R&B sirupeux. Il traite d'infidélité, de maladies sexuellement transmissibles et les personnages s'y nomment Rosie, Sylvester ou Rufus. Un peu comme s'il jouait dans Fight Club, R. Kelly endosse le rôle du héros et celui du narrateur, sauf qu'il n'y a pas de Chippendale atteint de nanisme dans Fight Club, ni de Proxénète Beg. C'est à la fois totalement incompréhensible et absolument génial, une espèce de mélange contre-nature qui ne pouvait naître que de l'initiative d'un type aussi louche que R. Kelly. Le fait qu'il porte des masques de Zorro rose bonbon dans ses clips n'est qu'un symptôme parmi d'autres de cette bizarrerie.
Vous pouvez réécouter la suite et surtout la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com et dans un instant, dès 20h, retrouvez Ta Gueule Coubertin. Allô, Valentin ?
Allô, Tiffaine ?
Oui, Valentin ?
Tu m'entends ?
Oui, vous êtes où, là ?
Ah là, on a fait un saut dans le temps, on est revenu dans le passé, on est en 1994 ce soir.
Il y a 20 ans ?
Eh oui, il y a 20 ans, jour pour jour, le 16 décembre.
Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ?
Eh bah, toute l'équipe de Ta Gueule Coubertin s'est penchée sur ce qui s'est passé, la mort d'Ayrton Senna, et surtout le football, l'équipe de France qui n'était pas au Mondial.
Qui n'était pas au Mondial en 94 ?
Eh non.
Et qu'est-ce qui s'est passé après, en 98 ?
Bah, on le sait pas.
On le sait pas, on le savait pas encore, voilà. Et bah ça c'est à 20h, Ta Gueule Coubertin spécial 1994. Nous on se retrouve demain, dès 19h, le sous-marin parlera heavy metal et sciences sociales à l'occasion du colloque qui se tient jeudi et vendredi à l'espace culturel. Merci à Pierre-Antoine, merci à Rémi pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.